Donc l'objet de notre exposé de cet après-midi concerne l'autopsie et les maladies respiratoires. Donc l'autopsie en fait s'insère dans un contexte de diagnostic. Ce diagnostic pour les maladies respiratoires peut être réalisé tout d'abord sur des animaux vivants. Et pour les animaux vivants, eh bien, l'examen clinique connaît un certain nombre d'intérêts, de rapidité, mais aussi de limites. Et en particulier, c'est un examen qui a une très faible valeur prédictive pour l'identification des pathogènes. Différents examens microbiologiques peuvent être réalisés, avec là aussi des limites que je ne détaillerai pas, mais qui sont présentes sur cette diapositive. Et l'utilisation également de la sérologie. La sérologie est une méthode classiquement employée, mais qui connaît là aussi beaucoup de limites, en particulier sur des jeunes veaux de moins de 3 mois, de 3 à 6 mois, sur lesquels il y a des interférences avec les anticorps colostraux, ce qui gêne considérablement l'interprétation des résultats. Donc l'autopsie s'avère un moyen très utile pour le diagnostic, d'une manière générale, dans les maladies respiratoires des bovins. Cet examen nécropsique est basé évidemment sur l'interprétation, l'identification et l'interprétation des lésions macroscopiques, éventuellement complétées par des examens microscopiques ou histopathologiques, qui, dans un certain nombre de cas, permettent d'avoir des informations fortement prédictive sur la nature des agents pathogènes responsables de ces troubles respiratoires. Par ailleurs, cet examen nécropsique permet une bonne évaluation de la durée d'évolution et évidemment de la gravité de l'affection. Donc, nous avons divisé notre exposé en plusieurs parties. La première est consacrée aux lésions qui ont une forte valeur prédictive par rapport à l'agent pathogène. Et dans ce groupe, eh bien, nous pouvons situer un certain nombre de maladies ou d'entités, la laryngite nécrotique ou purulente, l'IBR, les affections dues à Mannémia hémolytica, l'adictiocolose, l'aspergillose pulmonaire, les thromboembolies pulmonaires et aussi la tuberculose. Donc nous allons envisager ces différentes maladies de manière successive en commençant par la laryngite nécrosante. Alors sur le plan lésionnel, cette laryngite est une affection fibrino-nécrotique qui peut évoluer vers une affection suppurée et qui est principalement due à Fusobacterium necrophorum, mais on peut retrouver d'autres agents pathogènes, notamment des pasteurelles lacées et également le virus de l'IBR. Des lésions assez caractéristiques de laryngite suppurée, donc avec des foyers suppurés sur les cartilages aryténoïdes. La deuxième entité qu'il nous faut aborder, c'est l'IBR, donc qui est dû à un herpès virus, le bovine herpès virus numéro 1. Les lésions sont essentiellement localisées dans les cavités nasales, sur le larynx et la trachée, et sont de nature fibrineuse avec des fausses membranes adhérentes, avec souvent, lorsqu'on les soulève, ces fausses membranes, eh bien l'observation d'ulcères en situation donc sous-jacente. Les lésions pulmonaires en réalité sont fréquentes, même si elles ne sont pas dues exclusivement au virus de l'IBR, elles sont souvent associées à des co-infections ou à des surinfections, notamment bactériennes. Et il y a un certain nombre de complications de la bronchite, en particulier l'emphysème qui s'avère très fréquent en termes de lésions pulmonaires. Il est très important, avant de suspecter l'IBR, de différencier ces lésions de trachéobronchite d'un certain nombre d'autres entités, en particulier qui sont liées au drainage d'exsudats qui proviennent des voies distales pulmonaires, mais aussi de différencier ces lésions de pneumonie par aspiration, par exemple sur des vaches laitières qui ont reçu en traitement ou en prévention de fièvre de lait l'administration de chlorure de calcium qui peut aller dans la trachée et donc provoquer par son un effet irritant des lésions de trachéite relativement marquées. Alors, quelques diapositives pour illustrer ces lésions d'IBR avec ici les cornets nasaux qui sont congestivo-hémorragiques et avec cet exsudat nécrofibrineux que j'évoquais précédemment. Le début de la trachée, donc en arrière du larynx, avec un exsudat abondant qui est fibrino-suppuré. Le segment médian de la trachée avec des lésions nécrofibrineuses dont on perçoit bien, je crois, sur cette diapositive, le caractère adhérent avec notamment des lésions congestives et ulcérées sous-jacentes. Et enfin, dernière diapositive, c'est l'emphysème dont je parlais tout à l'heure et qui est une conséquence de la bronchite. Troisième maladie, c'est les affections provoquées, associées, dues à manémia hémolytica. La localisation est crânio-ventrale, il s'agit de pneumonie crânio-ventrale, avec une localisation qui est essentiellement lobaire et souvent très homogène. Les lésions consistent en une induration très sévère, analogue à celle que l'on peut percevoir en se touchant le front, par exemple, d'où le terme classique qu'on a utilisé, terme classique d'hépatisation, puisque l'induration ressemble à celle que l'on obtient lorsque l'on palpe du tissu hépatique. La couleur des lésions varie beaucoup en fonction du stade d'évolution et peut passer du rouge au noir ou au gris, suivant qu'on est en phase aiguë, suraiguë, hémorragique, noire, ou subaiguë avec une accumulation de cellules, d'où la couleur grise. Un certain nombre de lésions élémentaires sont très importantes à noter car elles sont la marque quasiment pathognomonique de l'infection par manémia hémolytica. Il s'agit en particulier de foyers de nécrose que l'on qualifie de foyers en carte de géographie pour souligner l'aspect irrégulier du périmètre lésionnel avec un liséré périphérique, donc blanchâtre. Enfin, il y a une exsudation fibrineuse qui est assez importante et qui va se traduire par une inflammation de la plèvre, pleurésie fibrineuse ou une accumulation de fibrines dans les espaces interlobulaires. Quelques images illustrant ces lésions élémentaires où l'on voit sur cette diapositive une pneumonie crânio-ventrale d'extension sévère avec une forte augmentation du volume. On devine l'induration très sévère et l'on aperçoit, notamment sur les lobes moyens et caudaux, une pleurésie fibrineuse très importante et provoquant d'ailleurs des adhérences entre le lobe moyen et le lobe caudal. Accumulation de fibrines dans les espaces interlobulaires et foyer de nécrose, dont je vous disais il y a quelques instants qu'ils étaient quasiment pathognomoniques de cette infection par manémia hémolytica, donc avec ce contour irrégulier et le liséré périphérique blanchâtre. Sur les deux diapositives suivantes, nous allons voir quelques caractères différentiels entre ces infections dues à manémia hémolytica et les infections provoquées par Pasteurella multocida ou ultérieurement par Mycoplasma bovis. En fait, ce qui domine dans les infections à manémia hémolytica, c'est un exsudat fibrineux et puis ces foyers de nécrose. Pour Pasteurella multocida, l'inflammation est plutôt de nature suppurée et il n'y a pas de foyer de nécrose. Il n'y a pas non plus, sur le plan microscopique, de cellules en grains d'avoine, qualifiées de « out cells », tout simplement parce que Pasteurella multocida est dépourvu du facteur de virulence majeur qui est à l'origine de ces modifications cellulaires, à savoir la leucotoxine, donc qui est présente chez Manémia hémolytica et absente chez Pasteurella multocida. Si l'on compare maintenant Mycoplasma bovis et Manémia hémolytica, ou plus exactement les lésions provoquées par Mycoplasma bovis et Manémia hémolytica, la différenciation peut s'avérer plus délicate. Pourquoi? Eh bien parce que dans les infections par Mycoplasma bovis, il peut y avoir des lésions de nécrose, même si cette nécrose sur le plan microscopique se distingue assez facilement de la nécrose provoquée par Manémia hémolytica. Sur le plan macroscopique, eh bien, il peut y avoir un certain nombre de difficultés. Alors, vous avez sur cette diapositive eh bien, deux images illustrant en haut à gauche les lésions provoquées par Manémia hémolytica et en bas à droite par Mycoplasma bovis. Je ne reviens pas sur les caractéristiques des foyers de nécrose dus à Manémia hémolytica. Et par opposition, eh bien, les foyers que l'on qualifie de caséo-nécrotiques et qui sont dus à Mycoplasma bovis, eh bien, sont plutôt arrondis, plutôt bombés, blanchâtres et dépourvus du liséré périphérique que l'on avait décrit pour les foyers de nécrose dus à Manémia hémolytica. Alors, il faut faire attention à ce stade, car si ces lésions élémentaires de foyers de nécrose sont très évocatrices de l'un ou l'autre de ces agents infectieux, il faut également noter que, aussi bien pour Manémia hémolytica que pour Mycoplasma bovis, on peut isoler ces deux agents en l'absence de foyers de nécrose, donc dans les deux cas. Et donc on ne peut pas exclure la participation, par exemple, de Mycoplasma bovis, même si il n'y a pas les foyers caséonécrotiques que je viens de décrire. Autre entité très caractéristique et très simple à diagnostiquer, sous réserve que l'on fasse quelques efforts en termes de dissection, eh bien, c'est la dictyocolose imaginale due à Dictyocolus viviparus, que l'on appelle également bronchite vermineuse ou pneumonie vermineuse. Ce qui est l'élément déterminant, évidemment, pour diagnostiquer cette dictyocolose, eh bien, c'est la présence de vers adultes dans les voies respiratoires, notamment la trachée et les bronches. Il peut y avoir d'autres lésions élémentaires, en particulier des foyers d'atélectasie, des lésions d'emphysème qui, encore une fois, s'expliquent par les lésions de bronchite, et également des foyers lobulaires dus à la bronchoaspiration des larves et des œufs qui aboutissent, ou qui aboutit plus exactement, à une alvéolite leucocytaire. Donc sur ces diapositives, eh bien, on voit l'accumulation, dans le cas particulier très très marqué, de vers adultes, donc de dictyocol adultes, dans les bronches de gros calibre. Lésions également très faciles à diagnostiquer, et entités faciles à diagnostiquer, c'est l'aspergillose pulmonaire, qui se traduit par une pneumonie nécrosante, multifocale, caractérisée par des foyers de 2 à 3 mm de diamètre, souvent beige ou grisâtre, et qui sont répartis sur l'ensemble du poumon avec parfois un liséré congestif. Donc ces foyers sont bien visibles sur la diapo qui vous est présentée, et l'on peut même apercevoir pour certains d'entre eux eh bien, le liséré congestif dont je parlais. En termes d'interprétation, il nous faut distinguer ce que l'on pourrait qualifier d'aspergillose primaire des aspergilloses dites secondaires. Ces aspergilloses primaires sont globalement en fréquence rares. Elles correspondent à des situations où il y a plusieurs cas successifs ou simultanés de pneumonie. Elles sont liées à la distribution de fourrage, souvent de litière moisie. Et c'est souvent aussi associé à une ventilation insuffisante, déficiente, ainsi qu'à un paillage avec une pailleuse mécanique qui induit beaucoup de poussière et la mise en suspension dans l'air que les animaux respirent d'une grande quantité de spores d'aspergillus. Par opposition, l'aspergillose secondaire est beaucoup plus fréquente. Elle se traduit par des cas isolés, sporadiques, au sein d'un troupeau. Globalement, on peut retrouver les mêmes facteurs de risque que ceux que l'on a évoqués précédemment, mais ce qui domine probablement beaucoup plus souvent dans ces aspergilloses secondaires, eh bien, c'est l'existence de facteurs de réceptivité et de sensibilité des animaux qui correspondent donc à des déficits immunitaires. Et l'on observe fréquemment ces aspergilloses pulmonaires dans le sillage de maladies débilitantes, comme par exemple lors de diarrhées néonatales. Avant-dernière entité assez facile à diagnostiquer et de grand intérêt sur le plan du diagnostic, eh bien c'est la thromboembolie ou les thromboembolies pulmonaires. Donc si l'on part de la lésion pulmonaire, eh bien on observe en fait des foyers dans le poumon, en particulier sur les lobes caudaux, qu'on appelait classiquement les lobes diaphragmatiques, foyers qui correspondent à des lésions de pneumonie métastatique. Ces foyers, qui correspondent aussi à des emboles pulmonaires, qui viennent se loger en fait dans les vaisseaux du poumon, peuvent être consécutifs à des thromboses veineuses. Alors, de manière rare, il s'agit de thromboses de la veine jugulaire, par exemple lors de phlébites, quelquefois de thromboses des veines mammaires, associées en particulier à des mammites, mais le plus souvent, eh bien, il s'agit de thromboses de la veine cave caudale qui fait elle-même suite, cette thrombose, à une bactériémie qui arrive dans le foie donc par la veine porte, bactériémie dont l'origine peut être retrouvée soit dans un foyer abdominal de péritonite, donc fréquemment lié à des corps étrangers, soit à une perméabilité accrue de la paroi du rumen, perméabilité elle-même consécutive ou associée à une acidose du rumen subaigu. Donc sur cette diapositive, eh bien, on voit très clairement le thrombus fibrino-suppuré de la veine cave caudale. Ici, une lésion hémorragique sur un lobe diaphragmatique, enfin un lobe caudal gauche du poumon. Lésion également de nature hémorragique, donc embolie avec des lésions hémorragiques dans le poumon. Et puis, de manière un petit peu moins facilement visible peut-être, eh bien des lésions des foyers en fait métastatiques suppurés sur un lobe pulmonaire. Et enfin, sur un plan clinique, eh bien c'est le symptôme qui est le plus caractéristique et qui correspond à l'hémoptysie, c'est-à-dire à l'expectoration d'une quantité de sang importante par les voies, par les orifices nasaux et par la bouche. Dernière entité assez caractéristique, c'est la tuberculose. Alors évidemment, la tuberculose, on pourrait considérer que c'est une maladie du passé, mais vous savez aussi eh bien, qu'il y a un certain nombre de foyers résurgents en matière de tuberculose. Il m'est apparu utile, nécessaire, de rappeler un certain nombre de ses caractéristiques. Eh bien, ces caractéristiques, sur le plan lésionnel, ce sont des foyers caséonécrotiques qui sont présents dans les nœuds lymphatiques, les poumons ou sur la plèvre. Néanmoins, il faut distinguer, différencier ces lésions caséonécrotiques de lésions fongiques ou de lésions néoplasiques, par exemple associées à des mésothéliomes ou à de la carcinomatose. Et très souvent, eh bien, cette distinction ne pourra être réalisée que par un examen histopathologique. Donc voici des foyers caséonécrotiques dans le poumon, caséification rayonnée d'un nœud lymphatique médiastinal et lésion microscopique avec les cellules très évocatrices d'une infection mycobactérienne qui sont ces cellules de Langhans avec des noyaux en fer à cheval, en disposition en fer à cheval que vous voyez donc sur cette diapositive. Nous venons d'évoquer ces lésions qui ont une forte valeur prédictive par rapport à la cause. Il nous faut voir maintenant un deuxième groupe de lésions qui ont simplement une valeur d'orientation en termes de pathogènes, d'agents pathogènes causaux. Néanmoins, ces lésions sont importantes car elles sont probablement beaucoup plus fréquentes d'une manière générale, hein, que les lésions que nous avons vues précédemment. Alors ces lésions à valeur d'orientation pour l'agent pathogène, eh bien, on a coutume de les distinguer en pneumonie alvéolaire et pneumonie interstitielle. Les pneumonies alvéolaires sont caractérisées par un volume augmenté, une consistance très augmentée, hein, donc je vous en ai parlé tout à l'heure concernant les infections par Mannheimia hemolytica, donc la consistance que vous pouvez obtenir lorsque vous palpez votre front. La distribution est crânio-ventrale et il peut y avoir un certain nombre de caractères particuliers, notamment des foyers de nécrose. Par opposition, du côté des pneumonies interstitielles, eh bien, le volume est généralement normal, la consistance est modérément augmentée, et vous voyez bien qu'il s'agit là du caractère différentiel probablement le plus important entre une pneumonie dite interstitielle et une pneumonie dite alvéolaire, car après, eh bien, les autres lésions élémentaires ne permettent pas ou n'autorisent pas facilement de distinguer ces deux entités, pneumonie alvéolaire et pneumonie interstitielle. Alors, comment comprendre cette différence d'induration? Eh bien, je crois que c'est relativement simple, sans être un histopathologiste distingué ou savant, lorsque l'on observe ces trois images concernant donc des lésions microscopiques de pneumonie alvéolaire en haut à gauche, de pneumonie interstitielle en haut à droite et d'un poumon normal en dessous. Pour la pneumonie alvéolaire, eh bien, on s'aperçoit que la totalité du poumon est remplie d'exsudats, de cellules, ce qui explique à la fois la fréquente augmentation de volume, mais aussi l'induration. Il n'y a plus de vide, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus d'air. En pneumonie interstitielle, eh bien, on aperçoit des fausses membranes hyalines qui tapissent la paroi alvéolaire. On s'aperçoit aussi qu'il y a l'accumulation d'exsudats et de cellules dans les espaces interalvéolaires, mais on se rend compte qu'il existe encore des zones vides, ce qui explique à la fois le volume qui reste quasiment normal et l'induration qui reste modérée. Et on le comprend d'autant plus qu'on le compare au poumon normal, donc c'est l'image du dessous, où l'essentiel en fait, de la surface paraît être occupé par du vide, hein, donc qui correspond en fait aux lumières alvéolaires ou aux lumières bronchiques. Alors, du point de vue étiologique, ces pneumonies alvéolaires, qui peuvent avoir une répartition lobaire ou lobulaire, eh bien, sont associées à souvent des séquences d'infection par des virus et des bactéries. Ensuite, ces pneumonies, ces bronchopneumonies alvéolaires, eh bien, peuvent avoir un certain nombre d'évolutions, soit vers des aspects suppurés, très souvent avec des bronchites suppurées et une dilatation bronchique, soit vers des abcès pulmonaires. Mais dans les deux cas, la cause majeure de la lésion est bactérienne. Alors, quelques images illustrant ces lésions de bronchopneumonie alvéolaire à un stade probablement aigu, compte tenu des aspects congestifs des lésions, bronchopneumonie avec un exsudat fibrineux dans les espaces interlobulaires, bronchopneumonie à un stade d'alvéolite fibrino-hémorragique, donc avec des lésions noirâtres qui traduisent l'accumulation d'une grande quantité de globules rouges dans les lumières alvéolaires, et bronchopneumonie, toujours alvéolaire, mais à un stade cette fois-ci subaigu, puisqu'on voit bien que la couleur est plus grise que précédemment, ce qui correspond à l'accumulation de leucocytes. Par opposition, les pneumonies interstitielles, eh bien, nous en avons vu les caractéristiques différentiel précédemment, et du point de vue étiologique, eh bien, ces pneumonies interstitielles reconnaissent grosso modo deux grands axes ou deux grands groupes de causes. D'une part, des causes toxiques, il s'agit de l'emphysème des regains, c'est une intoxication par le 3-méthylendol, ou il s'agit des pneumonies broncho-interstitielles virales. Alors pourquoi broncho? Eh bien, parce que la composante bronchique est majeure dans ce cas-là. Et lorsque ces pneumonies broncho-interstitielles sont directement létale, eh bien, il n'y a pratiquement qu'un agent infectieux susceptible d'expliquer à la fois ces lésions et la létalité qui s'ensuit, c'est le virus respiratoire syncytial bovin. En revanche, d'autres infections virales non compliquées par des bactéries peuvent être à l'origine de pneumonies bronchointerstitielles, mais qui dans la plupart des cas ne sont pas létales. Et donc, si l'animal meurt, eh bien, c'est que vraisemblablement, il a souffert d'une autre affection, une encéphalite par exemple, ou une entérite diarrhéique. Dans quelques images illustrant en fait ces lésions de pneumonie ou de bronchointerstitielle ou de pneumonie interstitielle, avec ici la volonté de démontrer une induration encore modérée qui finalement s'avère assez proche de celle que l'on peut obtenir en se palpant le bout du nez. Autres images avec cette couleur un peu grise du poumon, hein, donc associée à ces pneumonies interstitielles. Et puis une lésion qui est très intéressante, une lésion élémentaire qui est très intéressante à considérer, qui est le mucopu qui s'écoule des bronches lorsque l'on appuie sur la tranche de section et qui traduit donc cette atteinte bronchique qui, associé aux autres caractéristiques de pneumonie interstitielle, eh bien, traduit l'infection virale, en l'occurrence par du virus respiratoire syncytial bovin. Alors, ceci est une image de pneumonie bronchointerstitielle pour montrer simplement qu'il peut y avoir des pneumonies bronchointerstitielles d'extension modérée qui pourraient être associées à d'autres affections et qui, dans ce cas, eh bien, pourraient se retrouver donc, sur des animaux qui sont morts et donc que l'on autopsie. Alors, comme il y a ces lésions bronchiques très importantes, dans le cas des infections virales, par exemple pour le virus respiratoire syncytial bovin, eh bien, il va y avoir aussi des lésions d'emphysème. Alors, emphysème interlobulaire, emphysème disséquant, que l'on voit bien sur les lobes caudaux, ou emphysème alvéolaire ou lobulaire, comme on le voit également sur cette diapositive, emphysème également sous-pleural et aussi interlobulaire. Ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, eh bien, c'est que l'emphysème par lui-même n'est pas une lésion à proprement parler pathognomonique de l'infection par le virus respiratoire syncytial, puisque si vous vous en souvenez, il n'y a pas si longtemps, je vous ai montré des lésions d'emphysème pulmonaire associées à de la dictyocolose ou associées à de l'IBR. En fait, l'emphysème ne fait que traduire une lésion sous-jacente ou précédente de bronchite, indépendamment finalement de la cause de la bronchite. Donc, il convient de distinguer les pneumonies bronchointerstitielles aiguës de bronchites suppurées chroniques. Alors, à première vue, ça paraît relativement simple, en tout cas lorsqu'on l'énonce de cette manière-là. L'intérêt de faire cette distinction, c'est que d'un côté, pour les pneumonies bronchointerstitielles aiguës, eh bien, il y a une cause virale, notamment le virus respiratoire syncytial bovin, alors que de l'autre, pour les bronchites suppurées chroniques, la cause est essentiellement bactérienne et notamment des bactéries pyogènes. Alors, est-ce que c'est facile de distinguer ces deux affections, ces deux lésions? Eh bien, oui et non. Vous voyez sur cette diapositive que les premières caractéristiques classiques que l'on utilise sont finalement relativement proches dans les deux entités, dans les deux affections. En fait, ce qui va permettre de distinguer pneumonie bronchointerstitielle aiguë et bronchite suppurée chronique, eh bien, ce sont les lésions élémentaires bronchiques, car dans la bronchite suppurée chronique, eh bien, le pu est souvent un pu très sec ou crémeux. Il ne s'agit pas du mucopu que l'on observe dans le cas de la pneumonie bronchointerstitielle aiguë. Il y a une inflammation de la paroi bronchique qui paraît très nettement souligné donc dans la coupe du poumon. Et surtout, il y a très fréquemment une dilatation de cette paroi bronchique que l'on qualifie de bronchiectasie, donc pour montrer cette dilatation. Et on pourra même aller jusqu'à utiliser le terme d'abcès bronchocentré, donc pour insister sur à la fois l'accumulation de pus et sur l'épaississement de la paroi bronchique qui y est associée. Donc sur cette diapositive, eh bien, vous avez côte à côte des images pour illustrer la pneumonie broncho-interstitielle aiguë à gauche et la bronchite suppurée avec bronchiectasie à droite. Et vous voyez qu'effectivement, ce n'est pas forcément très évident de distinguer ces deux entités, mais c'est pourtant un objectif que l'on doit se fixer, car ce sont les implications en termes de causes infectieuses sont importantes. Virus pour la pneumonie broncho-interstitielle aiguë, bactéries, notamment pyogènes, pour la bronchite suppurée et la bronchiectasie. Nous avons vu ce qu'apportaient les lésions, à la fois sur le plan macroscopique et aussi, dans beaucoup de cas, sur les aspects microscopiques, même si je ne les ai pas détaillés. L'utilisation des animaux morts peut également, dans le cadre du diagnostic, s'appuyer sur la détection de pathogènes pour essayer donc de déterminer les causes infectieuses de ces affections ou des troubles respiratoires qui sévissent dans un lot ou dans un troupeau. Alors cette détection de pathogènes, elle est relativement simple sur le plan technique, les prélèvements sont faciles. En revanche, il y a un certain nombre de limites qu'il ne faut jamais perdre de vue. Alors ces limites, quelles sont-elles ? Eh bien tout d'abord, ces animaux qui meurent, ont été la plupart du temps traités par des antibiotiques avant la mort, ce qui peut d'une part gêner l'isolement des bactéries et d'autre part conduire à sélectionner des populations bactériennes antibiorésistantes, ce qui signifiera que le profil d'antibiosensibilité que vous observerez sur les bactéries isolées d'animaux morts ne sera pas nécessairement représentatif du profil d'antibiosensibilité des bactéries avant l'utilisation des anti-infectieux. Par ailleurs, eh bien, les prélèvements sont souvent réalisés à un stade assez tardif, notamment lorsque la pneumonie n'a pas été fulgurante, n'a pas été d'évolution suraiguë. Et dans ce cas, eh bien, il y a fort à parier que l'on aura dépassé en fait la période où les virus sont présents dans le poumon. Et pour expliquer en fait cette notion, eh bien, je vous présente un diagramme montrant en fait l'évolution de la fréquence des pathogènes au cours des différentes phases de l'infection. Alors c'est un tableau qui est arbitraire, avec des dates arbitraires, des durées arbitraires, mais l'important c'est d'en voir l'idée générale. L'idée générale c'est que les infections virales, à l'exception du virus BVD et notamment sur les animaux qui sont infectés permanents immunotolérants, eh bien ces infections virales sont transitoires. C'est-à-dire qu'on ne retrouvera des virus que pendant quelques jours après l'exposition aux agents infectieux. Pour les bactéries, la situation est différente par rapport au virus et elle est également différente en fonction de la nature des bactéries impliquées. Alors pour ce qui est des pastorelles lacées, Manemia hemolytica, Pastorella multocida, Histophilus somni, eh bien on va retrouver ces bactéries au début de l'évolution, très souvent en phase subaiguë, et elles seront la plupart du temps plus difficiles à mettre en évidence sur des animaux en phase chronique, tout simplement eh bien, parce qu'il y a à la fois la réponse immunitaire qui va intervenir, mais aussi l'utilisation des antibiotiques. Pour Mycoplasma bovis, eh bien, Mycoplasma bovis va être retrouvé pratiquement sur toutes quelle que soit surtout la durée d'évolution, quelle que soit la phase d'évolution. Et pour Truperella pyogenes, que l'on appelait avant Arcanobacterium pyogenes, voire même encore avant Corynebacterium pyogenes, eh bien Truperella pyogenes est rarement présente en début d'évolution. En revanche, on va très fréquemment la mettre en évidence sur des phases subaiguës ou chroniques d'infection. Donc il faut avoir en tête, de manière schématique, très schématique, cette évolution des pathogènes pour comprendre que l'intérêt de l'autopsie dans le cadre du diagnostic des maladies respiratoires, eh bien cet intérêt est majeur lorsque les autopsies sont réalisées sur des animaux qui sont morts après une phase aiguë d'évolution. Et cet intérêt est très réduit ou mineur lors d'autopsies réalisées à la suite d'une évolution chronique. Je vous remercie de votre attention.